Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
We just have too much stuff that's being produced.
Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition sociale et environnementale de l'industrie de la mode. Je vous propose des outils tech, des conseils de marques engagées et de partager l'expertise d'entrepreneurs à succès. Ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider la mode dans son développement durable. Onward Fashion est diffusé chaque mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter business, disponible sur thegoodgoods.fr, pour œuvrer avec nous au reset de cette industrie. Bonne écoute! Pour cet avant-dernier épisode de la saison, je vous propose de prendre le temps d'une longue conversation avec un as du marketing qui n'a pas oublié d'être un être humain. Après avoir gravi 4 à 4 les marches de l'ascension sociale, Grégory Pouy prend, depuis quelques années, le temps de s'interroger sur la finalité de cette course au capital et remet en question la définition du succès telle qu'il l'a apprise en école de commerce. Faire de la place aux dissonances cognitives, à la spiritualité, changer de modèle d'éducation et finalement renouveler son système de croyances vers plus de liens à soi, à l'autre et à la nature. Greg nous raconte son cheminement et les étapes de sa transition, personnelle et professionnelle, dans laquelle il emmène les entreprises qui l'accompagnent, en qualité d'analyste culturel, en marketing et en communication. Parce que tout le monde est concerné par les défis climatiques et de société, Greg s'adresse aussi aux citoyens, à travers son podcast et média VLAN, que je vous invite à découvrir si ça n'est pas déjà fait. Place à lui. Très bonne écoute. Salut Greg.
Salut Victoire.
Merci de venir à la caserne. Pour celles et ceux qui par hasard ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ?
Ce qui est quand même la très grande majorité des gens. Écoute, c'est toujours un petit peu compliqué cette question de savoir comment tu te présentes.
Choisis tes mots, hein, peu importe.
Je suis un être humain qui essaye de créer du lien. Voilà, je pense que c'est la meilleure manière de le dire. Et j'essaye de créer du lien entre deux mondes, le monde moderne qu'on connaît tous, parce qu'on a tous été élevés dedans, en tout cas les gens qui, qui nous écoutent a priori, et un monde, je sais pas si c'est post-moderne, moi j'utilise ce mot, il y a plein de gens qui l'utilisent, dans lequel on va aller, bon gré mal gré, dans lequel on va de toute façon, et donc du coup... Moi, j'essaie d'être un des ponts, pas le seul évidemment, mais un de ces ponts-là. Et je le fais de plein de manières différentes. Je le fais à travers un podcast qui s'appelle VLAN. Je le fais à travers un livre que j'ai écrit qui s'appelle Insoutenable Paradis. Et je le fais aussi à travers mon travail maintenant, qui consiste à faire du conseil et des conférences pour des boîtes, principalement dans la beauté et dans le luxe, pour essayer de comprendre comment on fait du business au 21e siècle. Et du coup, j'envisage d'en faire également. Attention, une sorte de newsletter payante, parce que je crois qu'il y a un vrai besoin de comprendre justement ça veut dire quoi faire du business au 21e siècle. Beaucoup de gens sont un peu perdus là-dessus.
Quand tu dis faire du lien, finalement, est-ce que tu saurais définir ce lien ?
Ouais, en fait, j'étais assez fier de tomber sur un truc qui était écrit depuis 2000 ans. Je me suis rendu compte que je parlais de trois choses finalement, qui étaient le lien à soi, le lien aux autres et le lien à la nature. Parce que tu peux pas faire de lien aux autres si t'as pas de lien à toi, et tu peux pas faire de lien à la nature si t'as pas de lien à toi non plus. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, waouh, c'est super. Et en fait, j'ai ouvert le bouquin qui s'appelle L'écologie spirituelle de Satish Kumar, et je pense que ça doit être à la deuxième page du livre, je pense que ça doit même être dans la préface, où ils disent, oui, ce truc a été écrit dans la Gita il y a 2000 ans sur lequel est basé l'hindouisme. Je me suis dit, ok. Mais en fait, pour moi, c'est ça. Ce lien, c'est effectivement à travers la communication, à travers le podcast, mais c'est aussi dans le partage, en fait. Et je crois que s'il y a une chose qu'on partage, enfin, il y a deux sentiments qu'on partage tous et toutes, je crois, aujourd'hui. C'est un, la solitude, Parce qu'en fait, on est tous très seuls, on le dit pas forcément, mais en fait, on se sent tous extrêmement seuls. Et le deuxième, c'est sans doute la peur et la crispation qu'on est en train de vivre, parce que ce monde est en train de changer très vite, qu'on s'en rend compte de manière plus ou moins consciente, et que ça génère de la crispation, et donc de la peur. Et ça, ça peut derrière prendre des formes différentes, évidemment, des formes de réponses différentes.
Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours ? Parce qu'il y a une particularité chez toi que je trouve intéressante, au sens où, de ton évolution personnelle, tu as fait évoluer ton métier sur le même chemin. C'est finalement le changement de, peut-être du système de valeurs et de ton système de croyances. Tu es quelqu'un qui a grandi dans un milieu assez modeste, avec peut-être une certaine définition de la réussite, qui aujourd'hui, si je ne me trompe pas, n'est plus du tout la même.
Alors, elle n'est plus du tout la même, c'est tout relatif en fait. Mais en tout cas, tu as raison. Moi, j'ai grandi dans une famille plutôt modeste, en cité, donc voilà, en banlieue parisienne. Et d'une famille où personne n'avait fait d'études. En tout cas, personne n'est arrivé au bac. Et personne, enfin même, ni mon père, ni ma mère, ni mon frère sont arrivés au brevet des collèges, donc ça s'est arrêté assez vite. Et moi, j'étais un peu promis à ce même chemin, donc voilà, on a essayé de me mettre en CAP, et puis bon, finalement, je suis pas allé en CAP, je suis allé au lycée, donc j'ai passé mon brevet, et ensuite j'ai eu mon bac, et en fait je me suis beaucoup émancipé par le travail, donc j'ai fait une école de commerce, prépa HEC, etc. Et ensuite du marketing, plutôt dans des grands groupes, Nous à l'époque, et puis Bouygues Télécom, et j'ai fait du marketing parce que j'étais passionné par l'humain. Donc c'est toujours ça qui m'a intéressé, qui m'a drivé. Et puis j'ai lancé un blog il y a 15 ans, un blog de marketing, qui m'a fait rentrer dans le digital. Donc j'ai été directeur général d'une boîte qui s'appelait Buzz Paradise en 2007, même 2006, qui faisait de l'influence. Donc c'était la première boîte d'influence en fait en France. J'ai créé le festival du film viral avec Emmanuel Vivier chez Vangsen. Et puis mon blog est devenu un des premiers blogs marketing en France, et puis derrière je vais aller chez Sapiens Razorfish où j'ai créé et dirigé du coup un département médias et social media. Et en fait j'étais dans cette course effectivement à la réussite étant sans doute celle qu'on définit un peu tous et toutes, qui est l'accumulation. C'est-à-dire même si tout le monde va me dire « mais oui, mais je sais bien que c'est pas ça le succès », si demain je vous dis « cette personne a vendu une boîte 15 millions », vous allez pas me dire « mais ça c'est pas du succès », vous allez me dire « ah bah oui, là c'est du succès, nécessairement ». Donc en fait l'accumulation de biens, de pouvoir et d'argent, donc par exemple le président de la République, Macron, il a décidé de moins cumuler d'argent, il aurait pu gagner beaucoup plus d'argent dans la banque, mais il a décidé de cumuler du pouvoir, donc après on a tous des équilibres plus ou moins vrais. Donc voilà, et moi j'étais évidemment totalement dans cette définition du succès, et j'y suis encore à plein d'endroits, parce qu'en fait c'est très compliqué, enfin je trouve, de gravir une montagne entre guillemets, et ça a vraiment été ça, donc de changer de classe sociale, de poursuivre ce chemin et de se dire bah, je vais y arriver, c'est un énorme driver en fait, hein, tu le retrouves pas mal dans beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs, c'est des gens qui en général ont essayé de se prouver quelque chose, soit parce qu'ils venaient d'une bonne famille et c'était par rapport à leurs parents, soit parce qu'ils venaient d'un milieu plutôt défavorisé et du coup c'était une revanche sur la vie entre guillemets. Et après tu te dis, en fait t'arrives là, entre guillemets là-haut, je sais pas si je suis là-haut mais en tout cas je suis bien, et tu te dis ah ouais mais en fait je me suis trompé de chemin, tu vois, et tu te rends compte qu'en fait c'est déjà un, et maintenant bah, du coup comme je connais beaucoup de start-upers, je connais aussi beaucoup de millionnaires, bah, tu te rends compte que ça n'apporte absolument pas le bonheur. Tu vois, enfin, bien sûr c'est que l'argent apporte du bonheur, on le sait tous, jusqu'à 70 000 euros par an, et puis après, en fait, ça décroît. Et puis, à un moment donné, je pense que ça se retourne surtout. Et ça, c'est un truc que tu as du mal à comprendre quand toi-même, tu n'as pas d'argent. Mais une fois que tu arrives à cet endroit-là, tu te rends compte que oui, cette société qu'on a créée dans l'accumulation, c'est marrant parce que justement, on parle beaucoup d'écologie punitive. Sans réaliser que la société dans laquelle on vit, elle est extrêmement punitive. Elle est punitive à plein d'endroits. Elle est punitive d'abord parce que pour faire cette accumulation, on sacrifie beaucoup de choses, en particulier son lien à soi, son lien aux autres et son lien à la nature. Mais du coup, son lien à soi, ça veut dire se féliciter quand on dort moins, par exemple, alors qu'en fait, c'est un élément extrêmement important de ta santé mentale, physique. On ne voit plus, on n'a plus le temps de voir ses enfants, de voir son mec, sa copine, ou sa femme. Et puis, on considère ça comme du succès, en fait. Tu vois, on voit le nombre de burn-out, on voit la prise d'anxiolytique, on voit les suicides. Et par ailleurs, ça pollue une tonne. Donc, en fait... on se pollue les poumons en permanence, etc. Et ça, c'est ça qu'on appelle le succès, en fait. Et c'est à cette vision-là qu'on regarde l'écologie en se disant, tiens, elle est punitive, l'écologie. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, ben, comment je fais ce chemin, pas inverse, parce que c'est pas vraiment l'inverse, mais ce chemin un peu différent, où tu te dis, ben, finalement, le succès, c'est pas forcément cette histoire d'accumulation, c'est sans doute autre chose. Et c'est sans doute être très connecté à soi, à son féminin. Donc, ce que j'entends par féminin, c'est sa vulnérabilité, son empathie. Et du coup, en faisant cette connexion, avoir moins besoin d'accumuler, donc moins besoin de cette. En fait, en rééquilibrant sa puissance masculine et sa puissance féminine, donc en ayant moins besoin d'avoir des éléments extérieurs, on va dire, ou de la force ou de la vitesse. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle la puissance masculine. En tout cas, c'est des archétypes. Et en développant ton féminin, du coup, tu es beaucoup plus ancré, en fait. Donc, il y a ça. Et il y a prendre du temps, vivre dans le présent, pas dans les projections qui, de toute façon, aujourd'hui, je pense que tout le monde a bien compris que ça allait être très difficile de se projeter. Et c'est ça qui est angoissant un petit peu. Donc, voilà, c'est ce changement de paradigme, c'est une réponse longue, pardon, que je suis en train d'opérer et qui se fait pas à la minute. Et moi, je me méfie toujours des changements radicaux. Il y a une personne qui m'expliquait ça, qui me disait, en fait, plus le changement est important pour toi et plus c'est un vrai enjeu, plus tes résistances vont se mettre en place. Et il faut toujours se méfier quand tu fais des ruptures très franches. Parce qu'en général, ça dure pas, en fait. Et c'est vrai que quand t'as vraiment envie de faire une transformation, t'as tes résistances, tes peurs qui se mettent en place. Et du coup, c'est difficile. Et moi, je suis dans cette phase-là où, bien sûr, j'ai changé beaucoup de choses. Tu vois, il y a plein de trucs que j'ai laissé tomber, entre autres, avoir un poste avec un titre pour qu'on me dise dans les dîners de soir, ouais, c'est super ce que tu fais. Alors que c'est vrai que quand tu dis que t'es consultant, forcément, ça marche un peu moins bien. Il y a ça que j'ai laissé tomber, il y a le fait de profiter, de se dire je vis au présent, donc là je suis parti vivre à Lisbonne en me disant c'est une ville dans laquelle je me sens mieux, là tout de suite, et on verra demain, donc je projette plus, je suis plus forcément dans la maximisation de ma carrière, parce qu'effectivement en restant à Paris ou en étant à New York où j'étais avant, forcément c'était beaucoup mieux pour ma carrière. Donc voilà, c'est des choix comme ça, et puis au fur et à mesure c'est essayer... il y a plein de choses que j'ai modifiées, le fait de quasiment plus manger de viande, j'en mange toujours. De toute façon, moi, je suis pas quelqu'un de radical, donc en fait, il y a rien que j'arrête totalement en général. Je suis plutôt dans la réduction drastique, donc de faire du sport tous les jours, par exemple, donc de prendre soin de son corps, parce qu'il y a un pote qui m'a dit une fois. Si t'as pas une heure à consacrer à ton corps tous les jours, c'est qu'il y a un truc que t'as pas compris sur le fait d'être un humain, en fait. C'est qu'il y a un problème. Et en fait, c'est tellement logique que je me suis dit, il a raison. Donc du coup, je fais du sport tous les jours maintenant. Donc voilà, il y a tous ces changements, le fait de déconsommer ou en tout cas de moins consommer. Enfin bref, il y a plein de trucs dont on va pouvoir parler, je pense.
C'est hyper intéressant parce que la... résistance au changement que tu as mentionné et la complexité des mécanismes à enrayer pour ce changement, on peut l'appliquer à n'importe quelle échelle humaine, mais aussi macro, entreprise, enfin voilà, et beaucoup plus systémique. Du coup, est-ce que tu peux nous parler peut-être, alors d'après ce que je comprends, il n'y a pas eu vraiment de point de bascule où tu n'as pas eu de breakdown qui t'a fait réaliser tout ça, donc c'est progressivement que peut-être tu t'as fait un pas de côté pour observer les gens autour de toi qui représentaient cet idéal dont finalement tu ne voulais plus. Comment est-ce que tu t'es cultivé et comment est-ce que tu as procédé, peut-être procède encore aujourd'hui, pour justement déconstruire ce mythe ? Sur quelle source tu t'appuies ? Quels sont tes outils ?
En fait, le mot déconstruction, il est juste parce que je crois que... En fait, j'ai l'impression de vivre dans Matrix. C'est-à-dire que je vois ce monde, le premier qu'on nous vend, qui est le monde de la technologie va nous sauver. On va continuer à vivre comme avant, le mythe de la croissance économique. Et donc, je vois cette autoroute, en fait. On nous dit, non, mais vous inquiétez pas, c'est une autoroute. C'est vrai, il n'y a pas de compteur de vitesse sur la voiture. Mais je vous jure, c'est une autoroute, vous pouvez appuyer sur le champignon, il n'y a pas de problème. Et de l'autre côté, on voit une deuxième route qui est celle des écologistes un petit peu radicaux qui te disent, en fait, c'est pas une autoroute, c'est qu'il n'y a plus de route, en fait, c'est fini, là, ça s'arrête. Et en fait, ce chemin-là, en fait, je crois que ces deux mythes-là sont faux. Moi, je crois qu'on rentre dans un lasso de montagne, et dans un lasso de montagne, ce qu'il faut faire, c'est ralentir pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire, où est-ce qu'on va. Et c'est vrai que quand t'as pas de compteur de vitesse et que tu vois pas forcément devant toi, ben tu ralentis, en fait. Je pense que c'est n'importe qui conduit ferait ça, a priori. Et je pense qu'on est dans cette phase-là, enfin, en tout cas, on a besoin d'être dans cette phase-là. Et donc, moi, ce que je me suis dit, c'est mon podcast Vlan, donc, qui était à l'origine, au moins pendant 50 épisodes, un podcast, 40, un podcast de marketing, j'en ai fait un podcast sociétal. Et en fait, c'était ma propre quête pour essayer de comprendre comment me positionner sur différents sujets, tu vois, de manière extrêmement humble. Moi, j'ai les réponses à pas grand-chose, donc du coup, je me suis dit, je vais aller voir des gens qui ont plein de réponses. Et donc, je reçois beaucoup d'anthropologues, de sociologues, de philosophes, de gens qui ont une expérience de vie intéressante. Je m'intéresse aux peuples racines, aux médecines alternatives, à tout ce qui fait la complexité du monde, en fait, justement, parce que je crois que on passe, quand on parle de modernité, post-modernité, on passe d'un monde d'analyse, donc l'analyse, et toi, à l'origine médecin, tu vas savoir très bien de quoi je parle, parce qu'en fait, l'analyse, c'est vraiment découper tout en morceaux pour pouvoir tout expliquer, un à un, et puis on passe dans ce monde où on essaye de prendre l'entièreté du problème et de regarder l'intégralité du problème. Et moi, je trouve que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec des médias qui essayent de faire du buzz, parce que les gens ne lisent pas, ne lisent plus et n'écoutent plus vraiment, ils regardent les titres, ils regardent des tweets, et puis le monde des réseaux sociaux dans lequel chacun s'enferme dans sa bulle sans trop s'en rendre compte, en fait, on est dans un monde extrêmement binaire. Et justement, cette binarité, elle est extrêmement dangereuse, parce que la réalité, elle est extrêmement complexe. Et donc, ça implique de déconstruire énormément de choses de ce qu'on nous a appris. Notre rapport, et je pense que ça, c'est le principal, au succès et au bonheur. Parce que tant qu'on nous vend une certaine idée du bonheur, une certaine idée du succès, ben on va aller dans ce sens-là, naturellement. Ou en tout cas, l'humanité, évidemment. Mais c'est aussi déconstruire le rapport au couple. Moi, par exemple, je considère que, et je pense que n'importe qui est parent pourra testifier de ça, mais et moi, je suis pas parent, mais j'en ai suffisamment autour de moi pour me rendre compte que cette famille nucléaire qu'on nous a vendue au 19e, elle est complètement débile. C'est-à-dire que personne ne peut éduquer un enfant à deux, ça n'a aucun sens. Donc, déconstruire ça, déconstruire peut-être la fidélité sexuelle, j'en sais rien. Enfin, déconstruire, il y a des tonnes de trucs, en fait, à déconstruire. Dans tous les sens. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire en recevant des gens. Par exemple, déconstruire notre rapport, par exemple, sur le champignon hallucinogène, à l'ayahuasca, au peuple racine, à savoir qui est le sauvage, qui n'est pas le sauvage. Et sans rejet, par exemple, tu vois, quand je parle des peuples racines et des sauvages, l'idée, c'est pas de dire nous, les Européens, on est des horribles personnages, etc. C'est pas ça. Hein. L'idée, c'est de se dire il y a plein de trucs géniaux qu'on a fait. Bien sûr, évidemment, la médecine, ça a réduit les famines, ça a réduit. La mortalité infantile, ça a réduit plein de choses, mais peut-être qu'on est allé un peu trop loin dans un sens, et que peut-être que ces peuples racines qui ont des connaissances ancestrales, ils ont des trucs à nous apprendre aussi, et sans les regarder de haut, sans les regarder juste en les regardant de côté, juste faire un mouvement, tu vois, de côté, et de se dire, bah, peut-être qu'ils ont des trucs à nous apprendre, et peut-être que la réalité, elle est entre les deux, et peut-être que, voilà, nous, on a des trucs à leur apporter, eux, ils ont des trucs à nous apporter, et voilà. Et ça implique beaucoup de déconstruction, et c'est le procédé par lequel je passe. Et tu vois, l'écriture du livre, c'était aussi pour moi une manière de structurer, enfin, ça a toujours été, quand j'écrivais mon blog à l'origine, une manière de structurer ma pensée. C'est-à-dire, tu lis des choses. Tu entends des choses, mais quand tu écris, tu structures pour toi-même et donc pour les autres. Et je pense que c'est comme ça que j'avance au fur et à mesure.
Du coup, avec tous ces outils, tu restes quand même centré principalement sur l'entreprise. Est-ce que toi, est-ce que tu considères que finalement, entre la société civile, le gouvernement, voilà, les individus, les chamans, pourquoi pas, ce genre d'entité, et les entreprises, ce sont les entreprises qui sont le plus gros levier de transition? Parce que finalement, donc, on a compris que tu y avais été au départ pour ce mythe, voilà, de la croissance et et cette quête de réussite à laquelle on est biberonné, disons. Mais aujourd'hui, c'est différent. Tu pourrais... tu pourrais, je sais pas moi, devenir berger. Chaman, berger, exactement, être complètement autre chose.
Je crois qu'il y a un des premiers épisodes de Vlan, pas un des premiers, mais peut-être dans les 30e, je sais plus ce sera bien le numéro, parce que ça fait longtemps maintenant, il y en a 100, 180, donc c'était les Chaman Corporate. Donc tu vois...
Il va falloir nous expliquer le concept.
Forcément, avec Fabrice, Nadjari. Alors, en fait, quand je me suis intéressé dans mon livre, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, en fait, donc le bouquin s'appelle Un Snap Paradis, le sous-titre c'est Écologie et mode de vie, comment réagir sans tout sacrifier. Parce que, en réalité, moi, en tant que bête français, j'ai envie de rien sacrifier. Personne n'a envie de sacrifier quoi que ce soit. Enfin, je veux dire. Tu vois, ça, a priori, si on te vend un sacrifice, t'as pas envie de le faire. C'est pas naturel, t'as pas forcément envie de le faire. En tout cas, pas si on te remplace par autre chose. Et donc, je me suis dit, ben, je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc, je suis allé voir, effectivement, sur mon podcast, je reçois beaucoup de gens de la société civile, donc des sociologues, anthropologues, ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis allé voir des politiques, tu vois, François Hollande et un certain nombre de personnes, des gens de think tank, de lobbying, etc. Et puis, des entreprises, des patrons de boîtes, comme Pascal Desmurger ou le directeur général de L'Oréal, etc. Parce que c'est des boîtes avec lesquelles je bosse, donc que je connais bien. En tout cas, L'Oréal. Et je me suis rendu compte qu'en France, on attend beaucoup que la solution vienne du politique, ça ne viendra pas du politique. On attend beaucoup aussi, on met beaucoup de pression à la société civile, mais bien sûr qu'elle change, il y a plein de gens qui changent, mais en fait, dans une société dans laquelle, en France en tout cas, on consomme en moyenne, je ne parle pas de nous deux, hein, mais en moyenne 12 tonnes de CO2 par an, donc moi c'est beaucoup plus, hein, quand je dis je ne parle pas de nous deux, moi c'est clairement beaucoup plus que 12 tonnes, et que l'objectif des accords de Paris, c'est 2 tonnes, et qu'un Africain moyen, c'est une demi-tonne, tu te rends bien compte que l'effort, c'est pas parce que tu vas trier tes déchets, etc., que ça va faire la grosse différence. En fait, il y a CarbonCAC qui a sorti une étude qui montre que même si un Français moyen vit de la manière parfaite, en fait, il réduit de 20% son impact, mais à 20%, on n'est pas à 6 fois moins, clairement. Et ça implique des changements systémiques hyper forts, et ça ne peut venir que des entreprises et c'est pour ça qu'en fait du coup j'essaye de mettre beaucoup d'énergie là-dedans et je pense que les personnes qui nous écoutent peut-être qu'elles se sentent un peu impuissantes en tant que citoyen, citoyenne mais en fait en étant dans une entreprise tu as un rôle majeur à jouer à plusieurs endroits le premier je crois c'est dans le design des produits parce que on a tout créé dans une idée d'énergie infinie. C'est-à-dire, et il y a plein d'exemples, mais quand tu prends une douche, à moins que tu aimes bien prendre des douches froides, ce qui en plus est bon pour la santé, mais ce que je ne fais pas, et ben t'attends que l'eau devienne chaude. Pendant ce temps-là, l'eau coule, elle s'en va, elle n'est pas recyclée. Donc maintenant, il y a quelqu'un qui a inventé, mais c'est pas du tout mis en place dans quasiment aucun foyer, une douche qui... Donc l'eau tombe, elle est recyclée dans le tuyau, elle est nettoyée de tes germes, évidemment, si, en particulier si t'es sous la douche, faut pas que tu te retrouves, retapes tes germes pour pas que ça augmente ta maladie éventuelle. Voilà. Nettoyer tes germes, réchauffer et resservir. Ça économise 90% d'eau. Tu vois, ce genre de détail, ben, c'est pas un détail du tout. Quand tu fais une machine à laver le linge, quand tu fais tourner une machine à laver la vaisselle, ça génère de l'énergie pour faire chauffer cette eau. Cette énergie, elle part. En fait, on n'en fait rien. Quand tu utilises une bouilloire, ça a été testé en Angleterre. En fait, tout le monde fait bouillir un peu trop d'eau dans une bouilloire. C'est un peu parce que c'est mal designé justement. On se rend pas compte parce qu'on se rend pas. Les gens ne savent même pas exactement quoi consomme quoi en fait précisément. Une bouilloire, en l'occurrence, comme un grille-pain, ça consomme énormément d'énergie. On a calculé que c'est chauffer cette eau qui est ensuite versée dans l'évier, hein, parce que concrètement, c'est ce que les gens font. En fait, l'énergie gâchée en cumulé de tous les foyers en Angleterre, ça permet d'éclairer l'Angleterre tous les jours. Mais tu vois, c'est des exemples aussi comme pourquoi pas mettre un compteur de CO2 sur une voiture, pourquoi pas modifier son rapport à la voiture. Et donc sans doute que les constructeurs d'automobiles, en fait, ils devraient arrêter de vendre des voitures. Sans doute qu'il y a un autre modèle complètement à penser. Ça peut être quand tu vas à l'hôtel, tu sais, t'as cette carte, quand tu l'enlèves, ça enlève l'électricité de tous les trucs les moins importants. Évidemment, ça garde l'électricité pour le frigo, etc. Mais de tous les trucs les moins importants, la lumière, etc. Pourquoi il n'y a pas ça dans les appartements? Ça, c'est du design aussi. Et en fait, à travers le design, les entreprises, elles ont un rôle, mais hyper important parce qu'en fait c'est ce qu'on fait au quotidien, donc notre rapport au travail, mais dans la consommation quotidienne en fait. Et je parle pas de manger bio, des produits qui sont produits en Afrique, hein, c'est pas de ça dont je parle. C'est vraiment de repenser le design et de se dire, mais en fait, alors il y a des produits pour lesquels ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'ils sont inutiles, Tu vois, je pense aux capsules de café, par exemple, où, en fait, tu n'as pas besoin de capsules pour boire du café, typiquement. Mais il y a plein de produits que tu peux complètement transformer. Je sais que, typiquement chez L'Oréal, leur principal problème dans l'impact aujourd'hui, c'est l'eau que les gens utilisent pour se laver, en fait. En fait, leur bilan carbone, il est détruit par l'eau que les gens utilisent. Je crois que c'est 40% de mémoire de leur bilan carbone, c'est l'eau que les gens consomment.
Tu veux dire que plus ils stimulent la vente de produits qui s'utilisent à l'eau, plus le bilan s'alourdit,
c'est ça, et puis en fait, en fonction des formules, en fait, tu vois, et c'est un vrai travail sur lequel j'imagine ils travaillent, en fait, faire des formules qui moussent moins pour que les gens consomment moins d'eau, en fait. c'est juste quand, en fait, le temps que tu prends à te doucher, bah, c'est ça qui tue leur bilan carbone, par exemple. Et donc, toutes ces réflexion là, en fait, tu peux vraiment avoir des impacts hyper importants sur la consommation des gens, en fait. Et je pense que c'est là que tu peux avoir le plus d'impact, c'est à travers l'entreprise. Il y a ça, évidemment. Il y a, pour moi, la compréhension de ce que c'est que la croissance. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant, tu vois, cette notion de PIB et cette notion qui a été hyper récente parce que ça date du 20e siècle. C'était après la crise de 29, donc c'est quand même super récent, cette notion de PIB. Et c'est un mec qui a pondu ça parce qu'on lui a demandé à un moment donné une manière de calculer la croissance. Et c'est une manière de la calculer, bien sûr. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on applique à l'entreprise des choses qu'on ne s'applique pas à soi. C'est-à-dire que quand tu, en tant qu'humain, tu vois, le truc le plus important en général, c'est tes relations humaines. Bon. Tu vas jamais définir si tu as réussi ta vie par le nombre de gens avec qui tu as été connecté. Ça n'a aucun sens, en fait. Et quand tu cherches à créer du lien avec les gens, tu fais pas des KPI bêtes et méchants sur le nombre de personnes avec qui tu as parlé dans la journée. C'est débile, en fait. Ça n'a aucun sens. Tu vas considérer la profondeur du lien. Mais cette profondeur de lien, ben, en fait, le KPI, c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'évidemment... C'est plus compliqué à calculer, et voilà, mais le lien que tu crées avec la personne, si tu vas voir quelqu'un et tu lui dis « je te file 50 euros et c'est bon, t'es mon ami », ben non, en fait, ça marche pas comme ça, évidemment. Et les boîtes, enfin, je dis ça en rigolant un petit peu, mais en fait, les boîtes font ça. Hein,
attends, je t'interromps, mais excuse-moi, les réseaux sociaux font ça aussi, c'est-à-dire que les KPI, c'est le nombre de likes et de followers. À aucun moment, ça ne préjuge de ton implication émotionnelle et relationnelle avec les autres. En revanche, c'est la démonstration et la recherche de validation externe par un système métrique absolument absurde.
Mais c'est totalement absurde. Et d'ailleurs, n'importe qui fait de l'influence sait que plus petite est la communauté, plus fort est le lien. Et donc, du coup, c'est pour ça que la nano-influence, la micro-influence se sont vachement développées. Parce que alors, bien sûr que les gros influenceurs, ils sont très visibles et c'est facile de les trouver. Tu vois, c'est un peu comme des baleines dans l'océan, même voire encore un peu plus gros. Mais par contre, ce qui fait vraiment de l'influence, ce sont les nano-influenceurs, parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus proches des gens. Et donc, bien sûr, ça représente un travail qui est beaucoup plus difficile d'aller voir des gens qui ont très peu d'influence, mais n'empêche que c'est beaucoup plus efficace. Et la réalité, c'est qu'il faut faire les deux, en fait. Il faut faire les trois. Il faut faire de la nano, il faut faire de la micro, et il faut faire des influenceurs moyens et il faut faire des top influenceurs, naturellement. Donc, en fait, le problème, c'est toujours de voir les choses de manière binaire. Et pour revenir sur cette idée de perception de la croissance, définir la croissance uniquement par des KPI financiers, c'est stupide. En fait, il y a une incompréhension de ce que c'est que le ROI. Le ROI, en fait, il a quatre dimensions. Ça a été défini par Forrester en 2009, donc c'est pas comme si c'était très récent. Il y a une dimension financière court terme hyper importante. Évidemment, et l'idée, c'est pas de remettre ça en cause. Et ça, bah, c'est des techniques, typiquement le search, ça permet de faire du financier court terme, et c'est super. Voilà. Mais il y a aussi une dimension financière long terme, typiquement le SEO, pour entrer dans les détails de techniques. Mais tu as aussi le indirectement financier court terme, par exemple les influenceurs, et puis tu as aussi le indirectement financier long terme. Typiquement faire de la recommandation, typiquement travailler ta marque, typiquement de la pub sur des podcasts, etc., etc. Et les quatre sont hyper importants. Si tu fais que du financier court terme, tu vas dans le mur. C'est comme, moi, l'exemple que je prends souvent, c'est parce que j'aime bien les exemples de la vraie vie, c'est de dire, t'arrives dans une nouvelle école, t'es au collège, t'es un gamin, une gamine, tu connais personne, t'as plusieurs choix, bon, admettons que t'aies beaucoup d'argent, ce qui est le cas des marques en général, t'as le choix de, je vais faire une énorme soirée, Je vais inviter tout le monde. Il y aura une piscine, il y aura un DJ, il y aura ce que tu veux. Ça va être super. Tout le monde va venir parce que ce sera une soirée. Combien d'amis t'auras à la fin ? Pas grand monde. Et puis, tu as une autre technique, ce qu'en général les gens font, regarder les gens autour de toi qui te ressemblent, essayer de te rapprocher, écouter ce qu'ils racontent et t'intégrer au fur et à mesure dans les conversations. Et en général, c'est comme ça que tu te fais des potes. Et bien sûr, ça prend plus de temps. Et pourtant, les marques, ce qu'elles font, c'est faire la grosse soirée à chaque fois et ne pas comprendre pourquoi elles n'ont pas de communauté. Majoritairement, elles n'ont pas de communauté. Bien sûr que Facebook a fait du marketing pour les marketeurs en disant « Venez parler à votre base de fans », mais elles n'ont jamais eu de communauté. Une communauté, c'est des gens qui se parlent entre eux sans le leader de la communauté, et c'est des gens qui ont des valeurs communes. Mais comme les marques ont difficilement des valeurs, ou en tout cas l'échange avec le sens du vent, du coup, je ne vois pas très bien comment elles pourraient avoir des communautés. Quoi. C'est complètement impossible. Enfin, ça arrive, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des marques qui ont des communautés, mais c'est quand même extrêmement rare. Parce que ça demande un travail de fond, en fait. Donc, là où je voulais en venir, c'est modifier sa perception de la croissance avec ce qu'on appelle des valeurs invisibles, que sont le lien, l'empathie, que sont, tu vois, tout ce que je définissais entre guillemets par le féminin, mais c'est aussi la profondeur du lien, l'entraide, tout ça, et les réintégrer dans la perception de la croissance. Donc, toujours être dans cette logique de croissance, mais pas qu'une croissance financière, parce que la croissance financière, n'a strictement aucun sens. C'est Philippe Biwix sur mon podcast qui m'expliquait que si on reste sur, par exemple, pour pousser l'exercice, en fait, on va dire, on reste à 2% de croissance par an, tu vois, ce qui est pas non plus incroyable, mais voilà. 2% de croissance, dans 1000 ans, on aura besoin de l'énergie du soleil intégralement. Et donc, tu comprends bien que c'est pas possible. Et donc, du coup, je veux dire même physiquement, tu peux le prendre dans tous les sens. Ce concept de croissance, il va s'arrêter. Qu'on le veuille ou non, en fait. Et c'est intéressant, tu vois, cette réflexion par l'absurde, parce qu'il y a un moment donné, tu dis, bah oui, non, effectivement, ça n'a aucun sens, ça ne fonctionne plus. Donc, en fait, il faut l'abandonner, mais pas abandonner le concept de croissance dans l'absolu, mais abandonner le concept de croissance économique. Parce que ce concept de croissance économique, aujourd'hui, on est arrivé à un modèle, et c'est intéressant parce que, tu vois, typiquement, le Covid, je pense que c'est la première expression de ça, mais... Ce modèle a fonctionné, et donc c'est pour ça qu'on est dessus encore. Mais on est arrivé dans un niveau où maintenant, en fait, l'espérance de vie en Europe et aux États-Unis est en train de descendre. On voit, typiquement le Covid, en fait, on voit les contractions qui commencent à arriver d'une société où, en poursuivant cette croissance financière qui était supposée amener du bien-être à plus de monde, en fait, commence à réduire le bien-être et à détruire des vies. Et c'est là où ça devient, je trouve, intéressant, et je pense que c'est le bon moment pour arrêter ce concept de croissance. Et le troisième endroit, donc premier endroit le design, deuxième endroit définition de la croissance, troisième endroit, c'est via la communication, parce qu'en fait, les marketeurs ne font pas forcément attention, mais tu projettes plein d'imaginaires quand tu fais de la pub. Et ces imaginaires-là, en fait, c'est par exemple, pour vendre une crème solaire, de montrer un couple sur un bateau, sur une mer translucide. Et tu le fais parce que tu te dis c'est sympa, ce que tu essayes de faire c'est de vendre de la crème solaire, mais ce que tu te dis c'est sympa le bateau, voilà. Mais sauf que du coup ce que tu projettes comme imaginaire derrière c'est bah oui mais moi aussi j'ai envie d'être sur ce bateau, sur cette mer translucide. Et en fait, bon an mal an, tu reprojettes cet imaginaire d'accumulation de biens, de pouvoir et d'argent. Et tu le fais pas exprès, mais en fait tu projettes un imaginaire. Et c'est vachement important que les marketeurs prennent conscience de ça, et prennent conscience des imaginaires qu'ils projettent à tous les niveaux. Ça peut être sur le recyclage, la seconde vie, ça peut être sur, tu vois, typiquement un argument marketing qui est beaucoup utilisé dans les technologies, c'est écran 4K, écran 8K, ton œil il fait pas la différence. En fait, donc c'est que du marketing, c'est comme la vitesse des processeurs. Majoritairement, les gens, ils font du Facebook, de l'Instagram, des mails. Et combien de personnes qui nous écoutent font du montage vidéo, je veux dire. Et t'as pas besoin de processeurs aussi puissants, personne, en fait. Donc, ils te le vendent et tu te dis, waouh, ouais, ça a l'air mieux. Mais en fait, ça ne sert à rien, parce que de toute façon, ton œil va même pas faire la différence. Les millisecondes économisées, c'est comme, tu vois, la 5G, où les gens mettent en avant, mais oui, mais on pourra opérer des gens à distance. Mais en fait, t'as besoin d'un hôpital, ils sont équipés en fibre, il n'y a pas besoin de la 5G. Alors oui, bien sûr, peut-être dans la brousse, à un moment donné, voilà. Mais majoritairement, la 5G, c'est, alors, je vais pouvoir télécharger un film en 30 secondes au lieu de 2 minutes. Est-ce que vraiment ça fait la différence ?
Majoritairement, on a besoin d'humains à l'hôpital, hein,
principalement. Merci de le rappeler, effectivement.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Alors, en pratique, comment est-ce que ça se passe quand tu es démarché par une entreprise? J'imagine qu'elles ont toutes des niveaux de maturité sur le sujet différents et qu'elles viennent peut-être te chercher soit vraiment pour l'aspect ultra-marketing, soit pour cette volonté de se transformer. Comment est-ce que tu... Déjà, à qui tu t'adresses dans l'entreprise? Comment est-ce que tu fais passer tes messages et est-ce qu'ils sont audibles? Parce que tu parlais tout à l'heure de communauté, de capacité d'une entreprise à créer du lien avec les consommateurs, mais avant toute chose, bien souvent, dans les énormes boîtes, au sein même de l'entreprise, il n'y a déjà pas de lien. Et ce n'est déjà pas une communauté, il n'y a déjà pas de message consensuel porté par un leader suffisamment charismatique d'un point de vue humain pour savoir dans quelle direction tout le monde est censé aller. Donc,
le directeur créatif.
Tu t'y prends.
Alors, souvent, les gens qui viennent me voir, ça dépend en fait. Il y a beaucoup de directeurs marketing, beaucoup de comités de direction. Et moi, j'ai la chance d'avoir la crédibilité par rapport à ces publics-là parce que j'ai quand même pas mal bossé avec pas mal de codires un peu dans le monde entier. Donc, j'ai quand même de la crédibilité par rapport à ces personnes. Et puis, j'ai pas un discours, enfin, je crois pas, très radical. Je pense qu'il est très entendable, mon discours. Et il fait. Enfin, j'espère, ça amène du sens et j'espère du bon sens. Donc, les publics sont différents et la maturité des gens est différente, évidemment, d'une entreprise à l'autre. Il n'y a pas de règles. Mais ce que je vois, et justement, moi, j'aime pas trop la diabolisation des entreprises parce que dans les patrons d'entreprise, tu as en général des humains qui ont des enfants aussi et qui se posent des questions aussi. Et eux-mêmes, tu vois, les questions que je posais tout à l'heure sur cette crispation, cette peur, l'incapacité de se projeter, alors qu'avant, c'était très facile. Si tu faisais A, tu avais B, tu avais C, tu avais D. Donc, c'est-à-dire, si tu faisais les bonnes études, tu allais rencontrer la bonne personne pour te marier, pour faire les bons enfants, avoir le bon job, les mettre dans les bonnes écoles, leur promettre un avenir génial, pour qu'eux-mêmes fassent une carrière, qu'ils rencontrent la bonne personne, nanana. Voilà, ça, c'était la projection sur laquelle on était à peu près tous. Et puis là, maintenant, en fait, on se rend compte que cette équation, elle marche plus du tout. Et donc, là, tu es bon, alors attends, qu'est-ce que je fais, en fait? Et les patrons de boîte, ou direction marketing, ou peu importe, ils sont sur cette même problématique. Donc, en fait, on a quand même des gens qui ont envie de changer, mais qui se sentent un peu impuissants et qui se disent, mais attends, mais comment je fais? Et je pense que... Alors, on vient me voir à différents niveaux maintenant, mais j'ai même des gens qui viennent me voir pour faire du coaching individuel. Pas du coaching, moi je suis pas coach, mais du coaching sur qu'est-ce qui est en train de bouger, qu'est-ce que je dois comprendre, et est-ce que tu peux m'aider du coup à faire la strate de mon groupe ou de mon entreprise? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Comment je peux faire changer les choses à mon niveau? Et je crois que quand tu es en entreprise, enfin ce que je disais tout à l'heure, mais c'est là où tu peux avoir le plus d'impact en fait. Donc du coup, c'est pour ça que j'y mets de l'énergie. Et généralement, tu commences évidemment par la raison d'être. C'est assez classique, mais en même temps, c'est hyper important de bien définir cette raison d'être. C'est pas moi qui vais la définir, la raison d'être. Il y a jamais un consultant externe qui peut définir la raison d'être de qui que ce soit. Mais par contre, aider quelqu'un à l'accoucher, oui, sans doute. Et donc, moi, c'est ce que j'essaie de faire au maximum. Aider les gens à accoucher de leur raison d'être. Parce que la raison d'être, c'est pas la manière dont tu gagnes de l'argent. En fait, il y a le why, le what et le how. Donc, le why, c'est ta raison d'être. C'est qu'est-ce que tu essayes de faire. Et ça peut vouloir dire pourquoi pas changer de business model. Le what, c'est comment tu gagnes de l'argent aujourd'hui. Et puis le how, c'est tes valeurs. Et en fait, le why et le how, ça ne doit jamais bouger. Et le what peut bouger. Et ce que font les entreprises en général, c'est que le what, elles ne le bougent pas. Et elles font bouger leur why et leur how. C'est-à-dire qu'elles vont demander à des agences ou des cabinets de conseil de redéfinir leur raison d'être, leur valeur, encore une fois, en fonction du vent qui tourne. Et puis leur what, la manière dont elles gagnent de l'argent, elles ne vont pas le bouger. Parce que c'est ce qu'ils savent faire. Alors qu'en fait, c'est complètement l'inverse qu'il faudrait faire, c'est-à-dire se structurer sur ton why et tes valeurs et dire la manière dont on gagne de l'argent, ça peut bouger, c'est pas grave. Je peux te prendre deux exemples, un très connu, très fatigant à force de l'entendre, mais néanmoins très parlant, qui est Kodak, où ils ont inventé l'appareil photo numérique. Donc c'est eux qui l'ont inventé, c'est même pas, enfin voilà, ça vient pas. Ils avaient 90% des parts de marché en 75 quand ils l'ont inventé mondial. Et qu'aujourd'hui, on sait ce qu'est devenu Kodak, parce qu'en fait, dans le CODIR, il y avait beaucoup de chimistes, et que du coup, les chimistes, eux, ils voyaient le digital comme « oui, bah, c'est nice, mais en fait, notre métier, c'est de faire des pellicules, en fait. » Parce que c'est des chimistes. Et ça, c'est quand on parle de diversité, par exemple, et tu vois, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment tout se relie. Mais quand on parle de diversité, et quand je parle de diversité, c'est diversité de profil. Donc, ça peut être des femmes, des hommes, des gens de couleur, ça peut être des gens avec des backgrounds différents, avec des valeurs différentes. C'est ce qui apporte de la richesse. Et ce qui apporte justement cette capacité de remise en question. Parce que si tu prends des gens qui sont tous comme toi, en fait, le problème, c'est que tu vas jamais voir les ongles morts. Tu vois, l'industrie de la musique, pour prendre un deuxième exemple, ils auraient dû inventer Spotify. Parce que bien sûr qu'au moment où le digital est arrivé, eux, ils ont lutté, je ne sais pas si tu te souviens, contre la musique en ligne. Mais leur métier, ce n'est pas de vendre des disques. Leur métier, c'était de distribuer de la musique, de faire connaître des artistes. Et en fait, ce n'est pas le même métier. D'un côté, c'est comment ils gagnent de l'argent en vendant des disques et faire des concerts. De l'autre côté, c'est leur métier, leur why, faire connaître des artistes et diffuser de la musique. Bon, ben, en l'occurrence, c'est eux qui auraient dû inventer Spotify, pas se faire bouffer par l'industrie. Et de la même manière, tu vois, je prends un exemple positif, tu as Adobe, donc que tout le monde connaît, parce qu'on connaît Adobe Acrobat Reader, Photoshop, etc. etc. Le patron d'Adobe, donc leur métier, c'était de vendre des logiciels sur... des CD-ROM, en gros. Et puis, le patron d'Adobe dit, non, mais en fait, on va arrêter de faire ce business-là, on va changer de business, en fait. Nous, notre métier, maintenant, ça va être de faire du logiciel en SaaS, quoi. Enfin, en gros, du logiciel que tu achètes en ligne et qui se renouvelle régulièrement. Et à l'époque, si tu veux, maintenant, ça nous semble... Et quand tu n'es pas dans le métier, peut-être que tu ne te rends pas compte que c'est un changement de métier radical, en fait. Mais en fait, fondamentalement, c'est un changement de métier. C'est comme si demain, Peugeot arrêtait de vendre des voitures. Enfin, tu vois, et en fait, c'est majeur comme changement. Demain, je sais pas, si on prend un exemple dans la mode, Chanel arrêtait de vendre des fringues. Et ben en fait, c'est un changement majeur. C'est pas un petit truc. Hein. Et du coup, ça a généré des grèves en interne. Ça a généré la baisse du cours de bourse de Adobe. Ça a généré des manifestations de clients physiques. et la boîte est passée de 5 à 10 milliards de chiffre d'affaires. Donc, en fait, c'est pour dire que tu peux aussi le voir et tu peux faire cette transformation. Et quand on voit, tu vois, cette transformation qui est en train d'arriver, c'est-à-dire la vague, on a tendance à dire écologique, mais pour moi, elle est beaucoup plus large que ça, parce que l'écologie, c'est un des soucis, c'est une des crises. En fait, c'est un changement de paradigme total de rapport, encore une fois, au lien, donc de rapport à soi, donc rapport au féminin. Donc, enfin bref, c'est un changement de paradigme total. On voit la vague arriver. Et c'est un peu comme la transformation digitale. Moi, j'ai fait beaucoup de transformation digitale pendant des années. Et déjà, je pense en 2009, je disais, non, mais vous savez, le digital, c'est un état d'esprit. C'est pas le fait d'être sur Twitter à l'époque, Facebook et je ne sais quoi, ou Second Life à l'époque, pour prendre un vieil exemple. Mais c'est de comprendre ce qui est en train de changer. Et de la même manière, et souvent, ce que j'ai vu, c'est des entreprises qui étaient sur la plage et qui se disaient, bon, je vois bien la vague du digital arriver, mais je vais attendre de voir si elle arrive à me toucher les pieds ou pas, parce que moi, je suis sur la plage et ça se passe plutôt pas trop mal pour moi. Et j'avais cette discussion, par exemple, avec le directeur marketing de SFR en 2007, donc ça remonte maintenant, je peux le dire, et je ne sais même plus comment il s'appelle, de toute façon, et qui me disait, non, mais moi, les avis sur Internet, je m'en fous, ça change rien à mon chiffre d'affaires. Ce qu'il m'avait dit à l'époque. Mais bon, c'était il y a 14 ans. Et en fait, tu peux pas... Enfin, une fois que t'es dans l'eau, c'est trop tard pour apprendre à nager, en fait. Et la vague, bien sûr qu'on va, on va tous se faire engloutir par cette vague. Et il n'y a jamais quelqu'un qui a réussi à retenir une vague avec ses bras, c'est impossible. Tu peux pas te dire, non mais moi la vague ça va bien se passer, je vais la retenir avec mes bras, tout va bien se passer. C'est pas vrai. La vague, tu vas être dans l'eau, et si t'as pas appris à nager ou idéalement à surfer avant d'être dans l'eau, bah t'es bien dans la merde en fait. Et du coup, moi ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer d'aider les humains, en fait, à apprendre à nager, donc à comprendre bah, ça ressemble à quoi la mer, comment ça se passe une fois que t'es dans l'eau, et puis bah, idéalement apprendre à surfer, parce que de toute façon, tu peux pas lutter contre une vague, et la vague, elle est grosse, elle est devant nous, et elle arrive, et voilà, et c'est comme pour le digital, et ça a pris. Et la transformation digitale, qui était une transformation simple, sincèrement, qui a pris une quinzaine d'années quand même pour la majorité des boîtes, là, la transformation qui est devant nous, elle est beaucoup plus majeure, parce que c'est un changement de paradigme total. Et c'était une petite vaguelette, le digital à côté. Donc, il va falloir. Et donc, voilà, c'est ce que. Et les entreprises, finalement, elles réagissent. Je pense qu'elles sont au courant, mais elles font une sorte de déni parce que c'est quand même beaucoup plus simple de faire du déni.
J'essaye de synthétiser ce que tu viens de dire. Non, mais c'est très bien qu'on l'explicite de cette façon. Mais en gros, j'ai l'impression qu'il y a quand même un fil conducteur. C'est toujours une preuve d'humilité, en fait, de la part de l'entreprise qui vient te voir en disant « Ok, show me the way, parce que là, je ne sais pas comment faire et je sens que je peux avoir de l'impact. » Deuxièmement, de reconnaître sa vulnérabilité et d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, que ce soit dans la science, dans la sociologie de l'imaginaire, dans voilà, des leviers qu'elle-même n'a pas en interne. Ensuite, c'est accepter quand même qu'il y ait une rupture à un moment donné dans ton modèle économique, dans ta manière de produire, dans le produit même peut-être que tu vas faire. Et c'est aussi d'avoir une vision moyen-long-termiste. Grosso modo, c'est ça. Ouais.
En fait, il y a ça. Et sur les méthodes, tu disais on se sent seul. Je crois que il y a une chose à faire, c'est d'essayer de repérer les gens qui sont dans ce même état d'esprit. En fait, ils sont distribués dans l'entreprise. Et il y a des gens qui ont envie de voir ce changement, mais ils peuvent être à la compta, ils peuvent être, j'en sais rien, dans un entrepôt, ils peuvent être au marketing, pourquoi pas, hein, évidemment. Mais ils ne sont pas, moi je ne crois pas, comme je ne croyais pas dans les directions digitales, pour moi les directions digitales ce sont des directions qui avaient pour but de mourir, moi je ne crois pas du tout dans les directions RSE non plus. D'abord parce que les directions RSE, et désolé pour les gens qui y travaillent, dans beaucoup de cas, ça a été des placards, et dans certaines boîtes ça l'est encore. Donc il y a ce premier problème là et il y a un problème de considération, mais c'était la même chose pour le digital, hein, genre sur tout le monde. Les gens qui étaient mis au digital, c'est les gens dont on savait pas trop quoi faire à l'époque. Et dans ce lot là, il y a eu des gens brillants, et maintenant on a compris que si tu comprenais pas le digital, tu pouvais pas diriger une boîte. Et je pense que c'est la même chose pour la RSE, la RSE, c'est parfois trop souvent, de moins en moins quand même, considéré comme un placard, alors qu'en fait c'est pas, il y a pas la problématique, c'est pas une direction RSE, c'est l'intégralité de l'entreprise qui doit se transformer et intégrer ce truc. Et pour moi la direction RSE c'est une étape, mais parfois tu peux aussi dépasser cette étape et te dire en fait la direction RSE on va pas y aller, on va transformer carrément l'entreprise. Mais en retrouvant les gens dans l'entreprise qui sont impliqués, et on sait qu'aujourd'hui il n'y a pas besoin de transformer l'intégralité des salariés, enfin, de manière générale, hein, c'est des philosophes qui te disent ça, mais on n'a pas besoin de 100% d'une société pour la transformer, il suffit de 10%, voire même parfois moins, pour transformer une société. Et donc dans ce cas-là, ben, en l'occurrence, il faut retrouver ces personnes-là et en créer une communauté en intérieur. Et effectivement, avoir des valeurs hyper fortes, ce que tu disais, parce que c'est essentiel, en fait. Et sans ça, effectivement, tu n'arrives pas à avoir de vision. Et malheureusement, effectivement, les directeurs marketing sont au quart d'année. Hein, en fait, en général, ils ont des objectifs qui sont très court terme. Généralement, le directeur financier, directeur général, il va avoir une vision à 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais pas plus, personne n'a de vision long terme, en fait. Et c'est ça qui est très triste, parce que la vision long terme, déjà, elle n'est pas très heureuse si on considère uniquement la performance financière, mais surtout, il faut vouloir se projeter et se dire, bah, attends, où est-ce qu'on est en train d'aller, quoi. Et bien sûr qu'ils font des exercices, mais il y a pas mal de boîtes, par exemple, qui passent par des auteurs de science-fiction. Des États aussi, l'État d'Israël, entre autres. J'ai fait un épisode là-dessus avec justement un auteur de science-fiction, mais qui t'explique comment, à travers la science-fiction, tu peux projeter. Et c'est hyper intéressant, même à travers en regardant des films, tout simplement. Tu vois, le dernier film de Spielberg, Ready Player One, moi, il me semble super intéressant sur une dystopie, mais ça peut être Avatar, tu vois, que je trouve aussi hyper intéressant. Donc, c'est des gros blockbusters et qui sont intéressants, en fait. Moi, je trouve qu'Avatar, ça t'apprend plein de choses. Ça dépend comment tu le regardes, en fait. Et ça peut être ça, ou ça peut être de lire de la science-fiction, ou ça peut être d'appeler des auteurs de science-fiction pour imaginer ton futur, parce qu'un auteur de science-fiction, il va se défaire complètement de la politique interne, il va se défaire de toutes tes contraintes, et il va t'emmener quelque part où tu serais jamais allé tout seul. Donc ça peut être ça, ça peut être à travers des consultants, ça peut être à travers plein de manières, en fait. Mais en tout cas, en sortant, en étant curieux, ça c'est extrêmement important, et la curiosité pour moi, l'intelligence pour moi c'est la curiosité, hein, généralement je lis les deux, et en étant curieux et en ne se mettant pas de barrières, en se permettant. Et je crois que quand on est dans une crise comme on est aujourd'hui, et en fait c'est des multicrises, c'est pas juste une crise, les idées, les bonnes idées, ce seront forcément des idées de côté. Ce sera pas, ça ne pourra pas venir du CODIR, en fait. Bien sûr que le CODIR, il y a besoin d'avoir quelqu'un qui donne une direction, parce que c'est extrêmement important. Mais il faut être ouvert aux idées qu'on pourrait nommer farfelues, quoi. Enfin, je trouve.
C'est ce que disait dans un épisode précédent Pierre-Arnaud Grenade, qui est CEO de Bâche, que eux, en 2017, quand ils ont vraiment établi une stratégie RSE, ils sont allés chercher dans les plus jeunes de chacun des pôles de l'entreprise les idées et ils les ont rendus responsables de la sous-partie RSE de chacun de leurs pôles, justement, et ils se sont inspirés de cette génération-là, quoi, qui a une sensibilité effectivement bien, bien supérieure. Et c'est très vrai ce que tu dis sur la SF. Et je trouve que pour lire, écouter beaucoup des gens comme Damasio, par exemple, ils ont une vision extrêmement systémique, justement, extrêmement transversale de la tech, de la politique, du militantisme, de l'écologie des entreprises, etc. Et c'est des vrais bouillons d'idées. Mais dans ce cas, il faudrait peut-être même réfléchir à une forme de... Comment on appelle ça des nouveaux team building ou, tu vois, de manière très pragmatique et très concrète dans une entreprise, des manières d'implémenter autrement que peut-être par un discours un peu inspirationnel ou une conférence, vraiment de laisser une place à ces gens-là, quoi.
Et tu vois, je vais aller en contre de ce que tu disais. Bien sûr, tu vois, ce que la personne de Bâche t'explique, c'est un petit peu le shadow comex à l'époque de Accor. Mais pour moi, pour être prof, tu vois, de fine à HEC dans plusieurs écoles, je sais bien que les jeunes ne sont pas tous responsables. C'est pas vrai, en fait. Pour moi, là, bien sûr qu'on a, segmenté les gens en génération X, Y, Z, machin, et en segmentant par âge, principalement. Parce que c'est plus simple de le faire comme ça. Mais c'est pas systématiquement les jeunes qui sont les plus responsables et les vieux qui sont des gros cons. C'est pas vrai, en fait. Évidemment que c'est pas vrai. T'as des... En particulier quand t'as de la bouteille, on va dire ça comme ça, t'as aussi cette expérience, cette maturité, et peut-être que tu prends moins de risques, mais c'est pas forcément vrai, tu vois. Et je trouve que il faut aller chercher partout des gens qui ont des idées farfelues, que tu considères comme farfelues, et ça peut être des gens qui ont 50 ans comme des gens qui en ont 20, et ne pas se limiter, je crois, pas trop se limiter aux jeunes, même si, bien sûr, il y a cette prise de conscience souvent, mais pas toujours. Moi, enfin, vraiment, j'ai eu cette expérience à l'école, enfin à l'école avec mes étudiants, j'entends, où je me rends compte, ben oui, enfin, c'est les premiers à consommer Zara, H&M, à être complètement dans les normes de la société, à essayer de rentrer dedans, en tout cas à tout prix. Donc bon, oui, ils ont cette conscience écologique sans doute, mais en dessous de la pression sociétale qui est il faut que je me change régulièrement tu vois, enfin, donc bon, tu vois, c'est les mêmes qui vont acheter des chaussures avec une tonne de plastique dedans, plein de polyester, et voilà, donc bon, toute chose égale par ailleurs, je trouve qu'il faut aussi s'ouvrir à des idées farfelues, en fait, c'est vraiment ça.
Et du coup, justement, la question des écoles m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que tu penses qu'il manque à l'éducation dans ces... Alors, peut-être même au primaire, au collège et au lycée, hein, mais dans les écoles et les études supérieures, pour qu'on génère des leaders de demain qui soient différents et qui tendent vers le modèle qu'on souhaite?
Bon, en fait, la réponse, elle est assez facile, pour le coup. Ce qui est difficile, c'est la mise en œuvre, peut-être. Je crois que, en fait, c'est ce qu'on appelle, tu sais, on appelle beaucoup ça des soft skills dans les entreprises, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire on bourre le crâne des enfants et on considère leur succès par leur capacité à répéter des trucs. Alors déjà, ce modèle correspond pas à tous les enfants, ça c'est le premier truc, il n'y a pas toutes les formes d'intelligence. Mais en plus, par exemple, tu vois, en école de commerce, moi j'ai toujours considéré que, c'est marrant, quand j'étais étudiant, bon, c'était il y a longtemps, il y a 25 ans quasiment, tu vois, typiquement entre HEC et l'ESSEC, je trouvais que l'ESSEC c'était vachement intéressant parce qu'il y avait un entretien de personnalité, tandis qu'à HEC c'était vraiment, il y en a un aussi, mais c'était principalement des entretiens de culture G, en fait, d'histoire et compagnie. Enfin, je me souviens plus parce que c'était il y a trop longtemps, mais. Et simplement s'intéresser à l'humain, en fait, développer ton empathie, développer ta vulnérabilité. Tu vois, tu parlais de vulnérabilité, j'en ai parlé aussi. Moi, j'en ai marre des marques qui nous disent on est les meilleurs en écologie, je sais pas quoi. Ça me saoule parce que c'est pas, tout le monde sait que c'est pas vrai, ça sert à rien de le dire. En fait, vous auriez mieux fait de dire, vous savez quoi, on est des tanches, on n'est pas très bon partout, franchement, mais voilà ce qu'on essaye de faire. Et voilà, on y a. Et en fait, ça rend le discours beaucoup plus crédible. Enfin, parce que si, je sais pas, X, Y, Marc me dit, eh, vous savez quoi, nous, en 2040, on sera là. Mais personne n'y croit, en fait. Je sais pas à quel moment. Parce que ce qui est étonnant, c'est que les marketeurs, ils ont ce problème vraiment fondamental de pas réussir, de manque d'empathie. En fait, c'est bizarre pour un marketeur, mais ils font des trucs que eux-mêmes ne consommeraient pas, c'était une autre marque. Tu vois, je me souviens d'un exemple sur les apps de marque. Tu vois, à l'époque, il y a eu cette. Ça peut être les podcasts de marque, tu vois, c'est pareil. Il y a eu cette période où les marques voulaient toutes créer leur app, tu vois, qui coûte une blinde en plus. Et quand tu demandes aux marketeurs, mais vous iriez sur cette app de cette marque qui n'est pas votre concurrent, donc vous n'avez même pas besoin de faire de benchmark. Oh ben non, attends, j'ai autre chose à foutre, quoi. Alors pourquoi tu le fais pour toi, en fait? Ça n'a aucun sens, tu vois bien que les gens ne vont pas l'utiliser. Et de la même manière, quand je te dis, mais est-ce que tu crois quand, je ne sais pas, XY marque te dit, vous savez quoi, on est les meilleurs en écologie. Par exemple, Jeff Bezos qui dit, on ne va pas attendre 2040, on va faire tout de suite. Est-ce que tu y crois? Ben non. Alors pourquoi tu le fais pour ta marque? En fait, c'est quand même bien fou. Enfin, c'est-à-dire qu'arrête, juste, sois en vulnérabilité aussi dans ta communication. Pardon, c'est un truc qui me... Pas qui m'énerve, mais j'ai du mal à saisir.
Non, mais c'est une bonne transition pour ma prochaine question. Qu'est-ce que tu penses du greenwashing?
Je pense que c'est vraiment prendre les consommateurs pour des cons, et je crois que les consommateurs sont loin d'être cons, en fait. Et je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à s'en rendre compte. Et il n'y a pas que le greenwashing, il y a le féminisme washing, il y a le social washing, enfin, il y a beaucoup de washing dans tous les sens, tu vois, sur la diversité, par exemple, il y a pas mal de washing aussi, parce que la diversité, ce n'est pas l'inclusion. Pareil avec le féminisme, tu vois, toutes ces marques, je pense à Nike, entre autres, qui a fait Nike Runs, qui défend vachement la position des femmes, et qui, à la fin, qui fait les chaussures? C'est des gonzesses qui sont payées même pas $1 de l'heure dans des usines horribles. Enfin voilà, donc bon. Mais je pense que, enfin, quand j'en parle comme ça, je pense que les gens, ils en ont conscience quand même que, par exemple, Nike, c'est pas forcément le meilleur exemple pour le féminisme. Et pourtant, tu vois, il y a plein de femmes en Europe, aux États-Unis qui courent à Nike She Runs. En disant, mais oui, c'est la libération de la femme, c'est super. Et je dis pas, le message, il est super, mais il s'est pas aligné, en fait. Et ce problème d'alignement, je crois que. Les gens commencent à s'en rendre compte, et puis il y a pas mal d'applications, de médias qui mettent le doigt dessus, en fait. J'aimerais éviter que le greenwashing, le féminisme washing, etc., soient des passages obligés pour une mise en mouvement. Je pense que c'est pas nécessaire. Enfin, je pense que tu peux aller plus directement à la réponse qu'en passant par du greenwashing.
Alors tu nous as parler de Vlan Podcast, mais aujourd'hui, Vlan, c'est un média. Tu peux peut-être développer un peu là-dessus.
Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte. C'est pas que je me suis rendu compte, c'est juste hyper logique aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai créé un podcast qui s'appelle Vlan, et je me suis dit, super, ça marche bien, en plus. Mais tout le monde n'écoute pas de podcast. Et en fait, c'est pas mon rôle, Grégory Pouy, de me dire, je vais faire en sorte que les Français écoutent plus de podcasts. Parce que la réalité, c'est que les gens ne vont pas écouter plus de podcasts. Il y a plein de gens qui n'écouteront juste pas de podcasts. Et ce n'est pas grave. Et ce n'est pas grave, mais moi, j'ai envie... Ce n'est pas que j'ai envie de toucher le plus de monde possible, mais un peu quand même, parce que j'ai envie de faire passer ce message et d'amener de la complexité, d'amener des conversations au bureau, quand on y va. Maintenant, on y retourne. Ou dans les familles, ou avec tes amis, etc. Et donc, je me suis dit... Ben, majoritairement, les gens n'écoutent pas de podcast, en fait, simplement. Et donc, j'ai développé beaucoup sur Instagram. Et donc, maintenant, il y a du contenu qui est publié tous les jours. Et si tu ne consommes pas le podcast, et ben, tu peux déjà le consommer le compte Instagram, et c'est super. Enfin, tu vois, tu as déjà plein de trucs. Et puis, je réfléchis à cette newsletter B2B aussi. Alors qui elle sera payante, mais en tout cas avec parce que Vlan c'est super, mais c'est des idées générales, tu vois, c'est, on te dit pas what's in for me, quoi, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour moi dans mon business au quotidien. Donc il y a cette partie là que j'ai envie de développer. Puis malgré tout, j'ai quand même pas mal d'entreprises, voire de potes, tu vois, qui dirigent des boîtes, tu vois, je pense à Sabrina Lori qui dirige Mac, tu vois, qui est une très bonne copine, mais plein de gens que je connais par ailleurs, et que j'ai envie d'interviewer, mais c'est vrai que sur Vlan, ça fait plus aucun sens, enfin sur le podcast. Donc du coup, j'aimerais bien aussi leur donner la parole ailleurs, parce qu'ils ont vraiment des trucs à raconter, mais c'est vrai que sur Vlan, ça fait pas de sens. Et donc j'ai envie de développer comme ça la marque de manière horizontale un peu, pour aller toucher d'autres publics, soit parce qu'ils n'écoutent pas de podcast, soit en allant toucher des entreprises, parce que c'est, à mon sens, encore une fois, un truc important.
ce matin, je me suis réveillée avec Le Figaro qui m'annonçait qu'on avait peut-être atteint le point de bascule vers un réchauffement irréversible, n'est-ce pas ? Et donc, entre autres nouvelles, j'oscille mon humeur dans la journée, tantôt positive, tantôt désespérée. Qu'est-ce qui t'anime, toi, en fait, au quotidien ? Qu'est-ce qui te rend positif ?
Alors, moi, j'ai cette chance incroyable d'avoir... structurellement du positivisme. Moi, je suis quelqu'un...
Tu es doté.
Moi, je pense que sincèrement, on a une aptitude au positivisme à la naissance, en fait. Et moi, j'ai cette aptitude, voilà. Donc, du coup, j'ai ça. Ça, c'est quand même une chance incroyable. Après, moi, ce qui me met en joie, c'est de voir que... on est, j'ai la sensation, en tout cas, j'espère pas trop me tromper, mais je pense qu'on est aussi au tipping point de la transformation de société. Moi, je crois que dans 10 ans, on vivra de manière très différente aujourd'hui. Je pense que, en fait, quand je regarde, j'essaye de prendre un chouïa de hauteur. C'est impossible parce qu'on est dedans, donc c'est très compliqué de prendre de la hauteur sur un truc que tu es en train de traverser. Mais je me dis, en fait, ce changement de société fondamental, voire ouais, de société, c'est un changement qui est long. Ça se fait jamais dans la minute. Mais en fait, on a l'impression que c'est maintenant, mais en réalité, ça a commencé depuis les années 50, 60, avec, tu vois, tout le mouvement hippie. Et un petit peu, pour ceux qui sont dans l'entreprise, vont connaître la courbe de Gartner, en général, ceux qui s'intéressent à la technologie s'intéressent à la courbe de Gartner. Et dans la courbe de Gartner, donc une courbe d'adoption des technologies, en fait, la courbe, elle a fait comme ça une très grosse hausse au début, puis il y a une sorte de descente aux enfers pour remonter sur ce qu'on appelle un plateau de productivité. Et pour moi, en fait, les hippies, c'était vraiment cette montée un peu tout azimut, avec pas mal de n'importe quoi aussi, hein, tu vois, il y avait du sexe des enfants, etc. Enfin, il y a eu plein de trucs n'importe quoi, des prises de drogue de manière beaucoup trop massive, etc. Mais n'empêche, ce qui était intéressant, c'est que c'était un mouvement, donc c'était très haut, c'était un peu n'importe quoi, et on est redescendu aux enfers, entre guillemets, avec Reagan, Thatcher, et donc ce capitalisme totalement débridé dans les années 80. Et là, on est en train de remonter sur une sorte de plateau de productivité, avec une sorte de rapport au monde. J'ai pas envie de dire écologie, parce que pour moi, ou alors faudrait considérer l'écologie que pas dans le rapport à la nature, mais dans le rapport à toute chose, et en particulier à l'humain, mais aussi aux animaux, etc., enfin, aux vivants, en fait. Et on est en train de changer notre rapport au vivant, de manière beaucoup plus profonde, et j'ai la sensation, et ça me rend, tu vois, pour répondre à ta question, assez positif, c'est que ce mouvement-là, je le vois de manière très nette chez de plus en plus de gens, voire des gens auxquels tu t'attendais pas, dont des patrons de boîte, dont des amis qui, par exemple, n'étaient pas du tout dans la spiritualité. Et moi, je crois qu'on doit changer de spiritualité de société. Alors, c'est pas du tout ésotérique, hein, mais c'est vraiment un changement profond de manière de regarder le monde. Et ça me rend plutôt positif.
Merci beaucoup, Greg.
Merci à toi.
Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, de laisser sur iTunes un commentaire 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.